Tendre vos portables ou mettez-le sous silence. N'oubliez pas aussi de vous présenter quand vous posez des questions. On va commencer aujourd'hui par Kinshasa, à ma gauche. À ma gauche, parce qu'on commence toujours par la droite. On donne le micro. Merci.
Merci. Je venais vous dire ça pour la RTNC. Ma question serait adressée au représentant spécial, mais monsieur le colonel Félix Basse peut y répondre. Mon colonel, le représentant spécial, a affirmé que le désarmement, le processus de désarmement connaît un blocage. Je voudrais savoir à quel niveau se situent les blocages et qui en sont les auteurs. Toujours au processus de désarmement de FDLR, vous avez lancé l'ultimatum de 6 mois et vous dites, peut-être, vous l'avez répété plusieurs fois, que c'est la solution militaire à la fin de l'ultimatum sera privilégiée. J'aimerais savoir, du côté de Kanyabayonga, au camp même de la MONUSCO, il y aurait environ 400 ou 350 FDLR. Que deviendront-ils à la fin de cet ultimatum? Voilà.
Oui, merci pour votre question. Effectivement, à la suite du représentant spécial, M. Martin Kobler, qui, lors de la même séance la semaine dernière, avait fait mention du blocage qui a été observé dans le processus de désarmement volontaire des FDLR. Votre question fondamentale, c'est qui est à l'origine de ce blocage? Bien sûr que ce sont les FDLR. N'oubliez pas que les FDLR ont exprimé le 30 juin dernier leur intention d'aller vers un processus de désarmement volontaire pacifique. Et tout a été mis en œuvre, aussi bien de la part du gouvernement congolais que de la part de la MONUSCO, tout a été mis en œuvre pour accompagner ce processus, pour le soutenir au plan logistique, pour le soutenir au plan médical, parce que vous n'ignorez pas que même ces pensionnaires qui sont dans ces camps de transit sont traités par la MONUSCO. Donc, le processus... Il est bloqué tout simplement parce que la volonté initialement exprimée par les FDLR n'a pas été concrétisée de manière palpable sur le terrain. Le centre d'accueil de Kisangani est aménagé, il est prêt, mais il est vide parce que tout simplement personne n'y va. Donc la responsabilité incombe d'abord aux FDLR. Deuxième chose, vous avez parlé d'ultimatum de la MONUSCO. La MONUSCO n'a jamais donné d'ultimatum aux FDLR. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Dans la mesure où vous n'êtes pas sans ignorer que la décision d'octroyer ou d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois a été prise lors du sommet de Luanda où la SADC, la CIGLR, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, mais aussi le gouvernement congolais était là, présent, pour accorder ce délai supplémentaire au FDLR, mais avec pour priorité aussi une évaluation à mi-étape, donc 3 mois plus tard, qui va se passer au mois d'octobre, de ce processus et de cette volonté initialement exprimée. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas d'ultimatum de la part de la MONUSCO. Ce sont d'autres acteurs au niveau régional, parce que vous comprendrez bien que la dimension FDLR est d'abord une dimension très politique, mais une dimension sous-régionale, parce qu'elle constitue une menace sous-régionale.
Merci. Je profite pour... vous dire que nous avons maintenant, je vois qu'on a à partir de Goma le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations à l'est du pays, le général Abdallah Wafi. Il vient de nous joindre, donc vous pouvez aussi lui poser vos questions. On va continuer maintenant à ma gauche.
Oui, merci. Hakim Kombo, CK TV. Directement, je m'adresse à Abdallah Wafi. Je sais qu'il y a 2 semaines à peu près que le général Dos Santos Cruz revenait de l'Ituri en province orientale. Il avait estimé que les exactions des éléments des FRPI, des Cobra Matata, devenaient insupportables. Il fallait directement passer par l'attaque ciblée de ces éléments. Alors déjà, s'il y a un plan en cours, pas de FARDC et de la MONUSCO, mais les voix s'élèvent en Ituri pour ne fût-ce que exhorté à la non-attaque de ces éléments par crainte d'hypothéquer cette année scolaire. Donc, est-ce que vous, Monisco, vous pensez qu'il faudrait retarder pour sauver l'année scolaire en Ituri? Ou bien il faudrait directement en finir avec les FRPI?
Bien, merci pour cette question. Je voudrais commencer par vous dire qu'effectivement, je peux vous confirmer qu'il y a des opérations conjointes en préparation contre Cobra Matata et le FRPI dans les jours à venir. Les préparatifs sont très avancés. Compte tenu des graves violations des droits de l'homme, des atrocités qui sont commises par ce groupe, je crois que la MONUSCO ne peut pas rester indifférente. Alors, la rentrée scolaire, je ne vois pas de lien entre les opérations militaires contre le FRPI et le problème de la rentrée scolaire. Non, les opérations auront lieu, elles sont en un état de préparation très avancé pour le faire. Je voudrais revenir sur la question qui a été posée en ce qui concerne le processus de FDLR. Le processus de FDLR, comme vous le savez, j'ai assisté à une réunion le 3 septembre à Kinshasa, présidée par le ministre des Affaires étrangères, Tshibanda, regroupant certains responsables politiques congolais, tous les ambassadeurs de la SADC, tous les ambassadeurs de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, pour faire le point sur l'état d'avancement. Le ministre Tshibanda, l'ambassadeur sud-africain parlant au nom de la SADC, et l'ensemble des participants ont reconnu que le processus était bloqué du seul fait des responsables de FDLR qui refusent maintenant de quitter le Kivu. À cet effet, ils ont adressé une lettre signée par Victor Mbiridiro au président en exercice de la SADC, disant que sous aucune condition les FDLR ne quitteront le Kivu. En disant qu'en 2002 ils ont déposé leurs armes, ils ont été trahis par la RDC, par la MONUC à l'époque et par le Rwanda, parce que leurs officiers qui sont rendus, qui ont déposé les armes, ont été massacrés. Ce qui naturellement est faux, et archi faux. Et donc dans ces conditions-là, vous verrez le double langage des FDLR qui sont dans nos camps à Kanyabayonga, à Wanlungu depuis 4 mois ou 3 mois, qui sont nourris, qui sont soignés par la MONUSCO, mais qui n'ont pas confiance à la MONUSCO lorsqu'il s'agit de quitter le Kivu. Alors je vous laisse le soin d'apprécier vous-même cette contradiction et cette mauvaise foi des FDLR. En tout état de cause, la MONUSCO ne donne pas d'ultimatum, n'a pas donné d'ultimatum, puisque à ce moment, ce processus est entièrement géré par le gouvernement congolais, la SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, avec l'appui de l'Union européenne, de l'Union africaine et des Nations unies à travers la MONUSCO. Toute décision qui sera prise en étroite collaboration entre ces différents partenaires pour voir les actions à mener face au refus des FDLR d'avancer.
Merci. On reste pour une dernière question ici à Kinshasa avant d'aller à Goma. Toujours à ma gauche. Est-ce qu'il y a... Non, on va ici. À droite. Merci beaucoup.
Oui, Albert Omba pour Numérica TV. Et je reviens encore de ce FDLR. Et parmi les FDLR que nous avons rencontrés à Kanyabayonga, ils disent que le blocage vient de deux faits. D'abord, que les autorités de la province orientale ont refusé leur accès à Kisangani, donc ils ne peuvent pas se rendre à Kisangani, parce que les autorités ont refusé leur présence à Kisangani. Et ils ont aussi exigé d'autres à la communauté internationale de faire pression sur le Rwanda. Alors, la question est de savoir qui bloque maintenant. Est-ce que le gouvernement et la MONUSCO sont prêts pour résoudre le problème des centres de Kisangani, délocaliser ces centres à un autre endroit?
Alors, pour répondre clairement à votre question, vous avez été à Kanyabayonga où vous avez rencontré peut-être des seconds couteaux de FDLR qui ne sont au courant de rien du tout. Moi, je vous parle d'une lettre envoyée par le président par intérim de FDLR, Victor Birigoro, et vous me dites qu'un élément FDLR vous a dit quelque chose, et vous, sur la base de ça, vous posez une question. Non, c'est une position officielle des FDLR, par leur voix autorisée, qui a décidé de ne pas aller à Kisangani. Le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions avec l'appui de la MONUSCO. Vous pouvez aller au camp CETB, qui est devenu, je crois, maintenant le camp général Bahouma, où toutes les dispositions ont été prises pour que ces gens puissent arriver. Qui plus est, je vais vous dire, le gouvernement congolais a envoyé un avion à l'aéroport de Kavumu qui restait plus d'une semaine bloqué en attendant que ceux de Walungu viennent pour être transportés à Kisangani. Au niveau de la MONUSCO, nous avons bloqué un avion Hercule 730 à Beni avec des camions à Kanyabayonga pour les transporter, pour les amener à Beni pour leur localisation sur Kisangani. J'ai personnellement dit à Lusa Mambo, aux responsables des FDLR que j'ai rencontrés, notamment la force basée Fils, pour lui dire que les femmes et les enfants et les personnes vulnérables, je suis prêt à mettre un hélicoptère de Kanyabayonga pour les amener à Beni, parce que la route entre Kanyabayonga et Beni est longue. Alors, pour leur montrer qu'on veut vraiment prendre soin de leurs femmes, de leurs enfants, nous allons mettre un hélicoptère pour les transporter. Alors, maintenant, vous venez me dire, c'est parce que le gouvernement a refusé. Le ministre Lambert Mende est parti à Kisangani pour lui-même sensibiliser la population, parler avec les autorités. Non, s'ils veulent partir, Kisangani est disponible. Tout est prêt. Demain matin, on met les camions, on met les hélicoptères. Monsieur, ne me posez plus cette question. Ils n'ont pas envie de partir. C'est tout. Voilà la vérité.
Merci beaucoup. On va partir maintenant à Goma. On va partir à Goma pour une série de trois questions à Amadou.
Oui, c'est Okito Papi du journal Écho d'Opinion. La question, je la pose au général Wafi. C'est sur le point des îlots de stabilité toujours. Vous êtes commandant en chef de l'opération. Nous avons remarqué que la MONUSCO est en train de travailler plus sur les villes qui sont un peu connues, mais pas au fin fond du pays, quoi. C'est-à-dire, les îlots de stabilité est considéré comme, par exemple, à Walikale, Beni, Uchu, mais à l'intérieur, à l'arrière intérieur, il y a beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'allez pas jusqu'au fin fond, alors que vous avez dit que la restriction va amener la MONUSCO à travailler jusque-là à l'intérieur?
Je comprends votre impatience et vous avez parfaitement raison en ce qui concerne les îlots de stabilité, là où nous sommes en train de les installer. Mais vous savez, l'Est de la RDC est quand même vaste. Nous-mêmes, au niveau de la MONUSCO, nous n'avons pas assez de ressources pour être présents partout et en même temps. D'où le choix de certains sites stratégiques pour être présents. Dans un premier temps, aujourd'hui, avec le personnel, avec les ressources que nous avons déployées de l'ouest du pays vers l'est du pays, nous sommes en train de mettre ces îlots de stabilité pour avoir une plus grande présence sur le sol. Vous prenez par exemple Walikale dont vous avez parlé. Je suis parti à Walikale. J'ai rencontré avec Martin Kobler et l'ambassadeur américain et d'autres personnalités. Nous avons rencontré la société civile, l'administrateur du territoire. Nous étions avec le gouverneur Paluku du Nord Kivu. Et figurez-vous, aujourd'hui à Walikale, les demandes qui sont faites sont tellement importantes, nombreuses, pour appuyer la justice, pour appuyer l'administration territoriale, pour appuyer la justice militaire, pour appuyer la PNC. 500 éléments de la PNC dans le Walikale avec un seul véhicule. Alors, vous comprenez, il y a des défis et nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, y compris avec le gouvernement congolais. La semaine dernière, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur. Je vais encore continuer à rencontrer d'autres personnalités gouvernementales pour que l'État central congolais s'investisse aussi à nos côtés dans ces îlots de stabilité pour vraiment améliorer la performance aussi bien des institutions de sécurité que de l'administration pour que vraiment ces zones soient sécurisées. Mais encore une fois, vous avez raison. Nous faisons ce que nous faisons, ce n'est pas assez, mais prenez par exemple dans le territoire de Beni, à Kamango, à Beni, nous sommes en train d'envoyer des staffs, d'envoyer des ressources pour le faire. À Chabouna, dans le Sud Kivu, et dans d'autres localités. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas être partout à la fois en même temps, parce que les besoins sont importants et le pays est immense. Voilà la réalité de ce que nous faisons.
À gauche, la soumise.
Oui, merci. Philippe Direco pour les camps de la RTC de Goma. Abdallah Fiche, par rapport à des coups de balles qui se sont fait attendre hier dans l'avant-midi, qu'est-ce qu'elle a au niveau de la petite barrière, qu'est-ce qu'elle a mon espoir comme information Surtout qu'il y a cette nouvelle-là, j'étais en bas des paniques au sein de la population environnante.
Pour être honnête avec vous, je n'ai pas entendu de coup de feu, je suis à Gouma, ni à la petite, ni à la grande barrière, et je n'ai pas observé de panique. Nous sommes là, tranquilles, sereins. Donc, non, je ne crois pas que ce soit quelque chose de préoccupant. Une autre question ?
Madame, il faut la parité en face.
Je la pose à Abdallah aussi. Avec une prévalence de 22% de VIH-SIDA, au sein des FARDC, que compte faire la MONUSCO pour arrêter cette progression qui menace plus le Nord Kivu, qui abrite la grande partie des unités combattantes de FARDC aujourd'hui? Merci.
Dans le cadre de la restructuration de la mission, nous avons fait venir toute notre équipe qui s'occupe du VIH-SIDA au niveau de la MONUSCO. Et ensemble avec le programme national, ensemble avec ONU-SIDA, ils vont développer des synergies et vous avez parfaitement raison, les FARDC sont une cible privilégiée pour notre section pour pouvoir non seulement faire la sensibilisation, mais mettre en place un véritable programme en appui avec les partenaires dont j'ai cité pour que vraiment ce fléau soit pris à bras le corps parce que, encore une fois, les forces de défense et de sécurité, malheureusement, de par leur déploiement, de par leur position, font les frais souvent de ces fléaux.
Merci. On revient maintenant à Kinshasa et après on aura le temps d'aller de nouveau à Goma. On commence ici à ma droite.
Merci Jean-Pierre pour RTGA. Une petite question pour le général Abdallah Rafi. Vous dites que les FDLR ne veulent pas aller à Kisangani. Tout le monde sait que le processus est bloqué. Alors, doit-on attendre l'expiration du moratoire ou il faut passer à l'action parce qu'on sait que sur le terrain, ils continuent à commettre des exactions, un rôle les enfants et bien d'autres. Et puis pour le colonel Félix Bassé, est-ce que vous en savez un peu plus sur les 6 personnes kidnappées les week-ends sur la route Masisi-Walikale? Quelles sont les circonstances de ces raptes et qui l'auront perpétré? Merci.
Merci. Première question pour Monsieur Wafi.
Alors, en ce qui concerne sa question, nous-mêmes, c'est une question que nous nous posons. Parce que, comme vous le savez, au début de ce processus, le gouvernement congolais qui nous avait approché avec le plan de désarmement volontaire des FDLR, c'était le 27 mai 2014. Ce processus devrait durer 3 semaines et aboutir au désarmement volontaire de tous les FDLR. C'était ça le plan. Nous avons accepté de soutenir le plan, nous avons mobilisé tout notre dispositif opérationnel, nous avons mis les camps de Walungu en place, les camps de Kanyabayonga, nous avons déployé notre logistique, nous avons soutenu le processus et à la fin du mois de juin, nous nous sommes rendus compte qu'en dehors de ceux qui se sont rendus à Beleoussa le vendredi 30 mai 2014 et ceux qui sont rendus à Kigogo le lundi 9 juin 2014 et qui ont été par la suite transportés les uns à Kanyabayonga, les autres à Walungu, il ne s'est produit aucun autre rendu. Il y a eu des dépendants qui les ont rejoints après, mais il n'y a plus eu de combattants qui sont rendus. Et donc, vous vous souviendrez aussi, le 2 juillet, il y a eu cette fameuse réunion qui s'est tenue à Luanda et qui a pris la décision d'étendre le délai précédemment de 3 semaines à 6 mois, avec une revue à mi-parcours au bout de 3 mois, c'est-à-dire théoriquement le 2 octobre 2014. Et donc, notre position, c'est, comme je l'ai dit tantôt, les autorités congolaises, de la SADC, de la Conférence internationale de la région de Grand Lac, avec nous, la MONUSCO, nous allons, le moment venu, faire cette évaluation en mi-parcours et tirer toutes les conséquences. Je ne veux pas préjuger de la décision que ces pays, que ces autorités vont prendre, mais je pense que si au bout de 3 mois, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de progrès, si on se rend compte qu'au bout de 3 mois, les FDLR annoncent clairement leur volonté de ne pas sortir de Kivu, eh bien, je pense que ces différentes autorités, ces différents organes vont en tirer toutes les conséquences et édicter les mesures appropriées. Mais encore une fois, par respect pour l'ensemble de ces autorités, je ne peux pas préjuger de la décision qu'elles vont prendre.
Merci. La deuxième partie de la question s'adresse au colonel Bax.
Oui, ceci en relation avec l'information que nous avons livrée la semaine dernière concernant le kidnapping de 6 individus par des éléments supposés appartenir au groupe Mai Mai NDC Tcheka. Effectivement, n'oubliez pas que aussi on vous avait relaté les opérations qui sont présentement conduites contre Tcheka, qui aujourd'hui fait mouvement vers le nord, vers Kifo et en direction de Oninga. Et c'est justement à cause de cette pression militaire exercée sur ces éléments, il est en débandade et donc il fait feu de tout bois en procédant à des kidnappings. Aujourd'hui, le groupe NDC Tcheka a subi un taux d'attrition extrêmement significatif, car n'oubliez pas que même au sein de ce groupe, une dissension a été opérée, car son adjoint Gédéon aujourd'hui est complètement dissocié à Tcheka, et Tcheka cherche une voie de salut en remontant vers le nord. Donc le statut exact de ces otages reste à déterminer, mais la pression militaire s'est précise, s'accentue. C'est d'ailleurs à cause de cela que vous avez noté un certain nombre de redditions qui sont consécutives depuis quelques semaines au sein des rangs du groupe Mai Mai NDC Tcheka.
Une deuxième question ici à Kinshasa avant de retourner à Goma.
Oui, je pose ma question à M. Carlos, c'est M. Samuel Mimboukangou, du journal Explorateur International. Je vois la question concernant la menace qui menace toute l'humanité sur l'Ebola. Est-ce que vous avez des précisions sur des morts à l'Équateur? Et quelles sont les mesures de prévention que vous prenez pour la ville de Kinshasa?
Moi, je pense que c'est une question qu'il faut poser au ministère de la Santé, parce que ce sont eux qui font le combat à l'Ebola. Nous, ce que je peux vous dire, c'est ce que la MONUSCO est en train de faire pour soutenir cet effort du gouvernement congolais. J'ai présenté un texte au début de cette conférence de presse avec toutes les mesures pratiques qu'on a prises jusqu'à présent au niveau logistique, au niveau des équipements. Il y a un camp qui est en train d'être créé à Bandaka, dans la région d'Équateur. Donc, mais sur un bilan d'épidémie, je ne peux pas le faire. Je pense que le ministre est revenu de l'Équateur, il a donné une conférence de presse, je pense que c'est à lui qu'il faut s'adresser pour un bilan actualisé. On va partir maintenant à Goma pour deux questions.
Précision. C'est juste 5 secondes, il y a le général Wafi qui veut apporter un élément complémentaire par rapport à ce qu'a dit Carlos.
Non, effectivement, dans cette crise de l'Ebola, comme l'a dit le porte-parole de la mission, seul le ministère de la Santé publique est compétent pour donner les chiffres, les précisions, pour communiquer sur cette question. Nous, en tant que Nations Unies, en tant que MONUSCO, nous sommes partie prenante, nous apportons tout notre soutien et nous estimons que compte tenu de la gravité de cette crise de ce virus d'Ebola, nous devons soutenir les efforts du gouvernement pour pouvoir éradiquer. Parce que cette crise-là, elle n'épargnera personne si elle venait à sortir. Donc, nous sommes très engagés. Pas plus tard que ce matin, nous avons discuté ici à Goma de l'appui avec la logistique de ce que nous allons amener. Nous sommes en contact permanent avec le ministre de la Santé publique pour le soutenir, pour l'appuyer. Mais en ce qui concerne toutes les informations sur cela, seul le ministère est compétent pour communiquer là-dessus.
Voilà la chemise verte, là, ça fait un moment qu'il...
C'est Justin Kifou Mourine de la radio communautaire de Walikale. J'ai des petites questions à poser à M. Abdallah Wafi. La première question, c'est en rapport avec les dossiers de Dissier. Je pense que vous avez des mémos émanant de la population locale de Walikale, en rapport avec le pourquoi des fermetures de ces sites miniers. En fait, dire l'insécurité presque partout, dans les massifs et dans le nord Kivu, où on est en train de faire toutes les minéreries. Mais à Walikale, on continue toujours à fermer ces sites et ça crée un peu de sécurité sociale. La population locale de ces chefs territoires de Walikale du Nord. Ça, c'est la première question. La deuxième, si possible, c'est en rapport avec les îlots.
Mais c'est quoi la question? Parce que vous avez
déjà fait des commentaires. En cas, la validation des sites, des missiles.
Donnez la chance aux autres.
La deuxième question.
Deuxième question, on va donner la chance à... Allez-y.
Il y a quelqu'un de vous.
Oui,
allez-y, Wafi.
En fait, en ce qui concerne la mine de Bissier, nous sommes au courant, nous avons été saisis par ce mémorandum que la société civile de Walikale nous a adressé. Nous avons pris bonne note et cela fait partie des discussions que nous avons avec le gouvernement dans le cadre des centres de négoce qui vont et les validations pour qu'il y ait une meilleure traçabilité des minerais. Mais encore une fois, vous comprenez que c'est une question qui est gérée par les autorités congolaises et pas par la MONUSCO. Ce n'est pas nous qui décidons de la fermeture ou de l'ouverture d'une mine. Mais nous avons pris en compte les préoccupations des populations et à travers notre présence à Walikale, nous allons continuer à transmettre les informations aux décideurs politiques pour que les mesures appropriées soient prises en ce qui concerne cette mine.
Oui, Norbert Mundulo pour la radio-télévision Graben. Si les œuvres de l'air continuent à refuser de vous faciliter la tâche, est-ce qu'en découdre contre et sera une partie du problème ou une solution définitive à ces problèmes?
Écoutez, je pense que les choses sont claires pour tout le monde, pour la communauté internationale, pour les Nations Unies, pour l'Union africaine, pour la SADC, pour ICGLR, pour le gouvernement congolais. Les FDLR sont un groupe illégal armé étranger qui est sur le territoire de la RDC. Le gouvernement congolais a clairement dit que les FDLR doivent quitter son territoire, soit rentrer chez eux au Rwanda, parce qu'ils sont rwandais, il faut qu'ils aillent chez eux au Rwanda, ou aller ailleurs. Et par rapport à cela, notre mandat au niveau de la MONUSCO, la neutralisation de tous les groupes armés, y compris les FDLR. Aujourd'hui, à travers le processus de désarmement volontaire, nous avons accepté avec les autorités congolaises, de ne pas entreprendre d'opérations militaires contre eux, dans l'espoir que nous pouvons obtenir de façon pacifique la fin de ce groupe armé, une solution définitive. Mais comme je l'ai dit tantôt, il va de soi que si, à la fin du processus, ils n'acceptent pas de désarmer, alors d'autres options, y compris l'option militaire, seront mises sur la table, exécutées.
Voilà, vous, voilà. Allez-y.
Merci, c'est Gide Abalaoui de Michapi Voice TV. Ma question s'adresse à Abdallah Wafi. Les FDLR continuent à opposer une farouche résistance à leur reddition. Y a-t-il des points particuliers qui vous semblent avoir contribué à l'échec de cette reddition? Et aussi, si possible, placer un petit mot sur la capacité militaire actuelle des FDLR.
Écoutez, lorsque nous avons été saisis de ce plan, encore une fois, de désarmement volontaire des FDLR, il vous souviendra, mais rappelez-vous, puisque vous-même vous êtes au courant, les FDLR ont écrit à la communauté internationale, à la SADC, à Mme Robinson, à Ban Ki-moon, au président Obama et que sais-je, pour dire, non pas d'opération militaire s'il vous plaît, nous allons accepter de déposer les armes pacifiquement, nous allons nous rendre. Et il nous a été demandé d'appuyer ce processus. Alors aujourd'hui, vous posez la question en disant, ils opposent une farouche résistance. Merci pour la précision. Alors dans ce cas-là, s'ils résistent à se désarmer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la suite,
vous serez farouche.
Vous la devinez.
Alors la capacité militaire actuelle des FDLR, vous pouvez l'évaluer en tout cas.
Écoutez, pour nous, il ne s'agit pas, le problème ne se pose pas en termes de capacité militaire. Il se pose en termes de principe. Les FDLR, je le répète encore une fois, sont un groupe armé illégal, étranger, qui n'a pas vocation, un, à rester à RDC, parce que le gouvernement congolais demande leur départ. Et d'ailleurs, même les populations congolaises demandent leur départ. Et donc, la fin des FDLR, et comme vous le savez aussi, qui est un motif de suspicion et d'instabilité dans la région des Grands Lacs, la disparition des FDLR ne pourra que renforcer la paix et la stabilité et surtout le rétablissement de la confiance entre les pays de la région. Voilà pourquoi nous ferons tout pour que les FDLR cessent d'exister en tant que groupe armé.
Merci beaucoup, Général Abdallah Wafi. Sur cette note, nous terminons cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Merci d'avoir été à notre compagnie. Nous rendons l'antenne à Radio Okapi.